Mugamba.
Nzambira Samirana.
Le journal avec Franck Kadze.
Nous sommes jeudi 21 octobre 2021. C'est l'heure du journal sur la radio Nzamba Gatika Kawe. Tout d'abord les titres. Le jour serait-il arrivé où tous les jugements rendus soient régularisés? C'est en tout cas l'objet d'une campagne lancée aujourd'hui par le ministère de la Justice. Mais la tâche ne sera pas aisée tant que la corruption, qui est la principale cause des centaines de milliers de dossiers en suspens, ne sera pas combattue. En voilà un jour qui provoque des positions mitigées et la 28e commémoration de l'assassinat de Melchior Ndadaye ce jeudi ne déroge pas à la règle. Le CNDD-FDD qui veut tirer la couverture de son côté en clamant suivre l'héritage de Ndadaye par le respect des principes démocratiques, tandis que l'opposition estime qu'on est très loin du compte sur ce sujet. L'Union européenne se lève également pour réclamer la libération de Tony Germain-Kina. C'est sa sous-commission des droits de l'homme qui estime que la peine d'emprisonnement prononcée contre lui est illégale. Voilà pour le sommaire. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
21 octobre 1993, 21 octobre 2021, voilà 28 ans jour pour jour, le président Melchior Ndadaye et ses proches collaborateurs étaient assassinés. Ce fut le déclenchement des massacres des Tutsis et des Hutus modérés. À Bujumbura, une messe en mémoire de feu président Melchior Ndadaye a été organisée à la cathédrale Regina Mundi, l'occasion pour le vicaire général de l'archidiocèse catholique de Bujumbura d'appeler les Burundais à l'unité et à la solidarité pour mettre fin au cycle de violence. On écoute cet extrait de l'homélie de Mgr Anatole Dubelinyang.
Le 21 octobre 1993, la flamme de l'amour s'est éteinte au Burundi. Ce fut une nuit très longue, un jour sombre. Les Burundais ont été endeuillés. Nous sommes invités à tout faire pour que cette flamme de l'amour ne s'éteigne plus jamais. La flamme de l'amour sera nécessairement entretenue par tous les Burundais. Un parti politique ne peut briller et rayonner seul. Il finirait par disparaître. Les Bahutus seuls ne peuvent pas allumer la flamme. Ça serait peine perdue. Elle finirait par s'éteindre. Pareil pour les Bahutus et les Bahutus. Si nous n'aidons pas nos frères et sœurs à un exil à rentrer, à sortir de la misère dans laquelle ils croupissent, la flamme du Burundi aura beau être allumée, elle ne sera pas du tout à la hauteur. Même celui qui préfère se mettre à l'écart se condamne lui-même à disparaître. Ainsi donc, acceptons que cette flamme d'amour que le Christ est venu allumer en nous le soit
réellement. Le vicaire général de l'archidiocèse catholique de Bujumbura a par ailleurs invité les Burundais à éviter les mauvaises pratiques. Selon Mgr Anatole Ubelinyange, le mal revient toujours à celui qui le fait. Je vous propose de le suivre encore une fois.
Évitons de mettre les parties de notre corps au service de ce qui nous éloigne de la vie, de ce qui nous pousse à commettre le péché, nous conduit à la mort. Nos ancêtres ont vu juste. Le bien est le bien. Il n'est ni facultatif ni ambivalent. Un bien qui comporte une malice n'en est pas un. Un bien malicieux, trompeur et éphémère. S'accaparer des biens d'autrui donne une satisfaction éphémère parce que les propriétaires, que ce soit l'État ou les particuliers, finissent par les reprendre. Verser le sang est une source de malheur. Nous devrions apprendre à l'instar de Jésus à faire le bien sans détour, qui ne cherche pas d'intérêt, un bien qui demeure, un bien éternel.
Du côté du parti au pouvoir, l'on affirme marcher sur les pas du héros de la démocratie, dont on commémore aujourd'hui les 28 ans de l'assassinat. Le CNDD-FDD indique que son mot d'ordre est basé sur la préservation des principes démocratiques et le respect des droits de l'homme. Les propos sont de la porte-parole du parti présidentiel, Nancy Ninette Moutoni.
Donc 28 ans après, nous nous réjouissons de l'étape déjà franchie en matière de liberté du peuple, que ce soit la liberté d'expression, la liberté d'opinion, d'association, même les libertés politiques. C'est aussi un des héritages que nous a légué Feu Melchior Ndadaye. Et nous nous engageons, comme parti qui dirige le pays, à toujours persévérer, et nous restons déterminés et à perpétuer ce bel héritage de démocratie et de liberté du peuple à l'autodétermination.
Et pourtant, la démocratie que recherchait le président Melchior Ndadaye n'est pas encore arrivée au Burundi. C'est l'avis de Frédéric Banvoguignon-Villa, qui fut membre du parti Soigneur Faux Debout. Selon lui, le chemin emprunté par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, va au contraire conduire le Burundi dans un gouffre. Écoutez-le.
Son objectif n'a pas été réalisé à cause des moments difficiles que le pays a connus dans le passé. Pour que nous puissions instaurer un état de droit démocratique comme il le souhaitait, il faut que les choses changent. Il faut que les autorités changent de comportement. Si ce n'est pas le cas, il faut que les autorités soient remplacées pour que le pays avance. Sinon, il va basculer vers un gouffre pour du bon. Parce que le chemin vers lequel ils nous ont conduits au sortir du maquis ne nous mènera nulle part ailleurs que vers le pire.
Souvenez-vous, le jour de l'assassinat de Melchior Ndadaye, le 21 octobre 1993, fut aussi celui où plus de 80 élèves d'ethnie Tutsi furent brûlés vifs à Kwibubu, dans la localité de Kibimba, en province de Gitega. Seuls 10 membres de l'association AC Génocide Chirimoso ont été autorisés à aller se recueillir au mausolée de Kwibubu. Cette association est loin d'être contente de cette limitation, mais malgré cela, elle se dit plus que jamais déterminée dans la lutte contre le génocide. Écoutez Terence Mouchano, il est le vice-président de l'association AC Génocide Chirimoso.
Nous venons d'apprendre qu'à Gitega et à Bujumbura, il y a une foule nombreuse pour se souvenir du président Ndadaye lâchement assassiné. Mais limiter le nombre à 10 à Kwibubu, c'est une sorte de discrimination, c'est une sorte de refus de la liberté d'expression. Vous savez, hein? Il y a un président français, le général qui est devenu président français, le général de Gaulle, Charles de Gaulle. Une fois quand il était en exil à Londres, il est allé dans une manifestation sur muni d'une pancarte sur laquelle était inscrite « Nous sommes la France ». Nous autres, quand bien même nous sommes au nombre de 10, nous représentons toutes les victimes, tous. Nous souhaitons qu'à la fois prochaine, il serait très nombreux. Qu'on nous autoriserait tous les parents qui ont perdu de l'air. Nous réaffirmons notre engagement dans la lutte contre le génocide et nous ne nous lâcherons jamais. Nous n'accepterons pas de mourir à genoux.
L'organisation SOS Torture dénonce une justice sélective et partiale des juridictions burundaises 28 ans après l'assassinat du président Ndadaye et les victimes de la liberté humaine qui a suivi cet assassinat. Pour SOS Torture, l'équité de la justice est fondamentale pour l'avenir du Burundi. Cette politique de deux poids deux mesures de la justice burundaise sape les espoirs de la réconciliation du peuple burundais. C'est du moins le contenu de son bulletin numéro 39. Plus de détails avec Benny Axelakana.
SOS Torture, dans ce bulletin numéro 39, parle d'une justice sélective dans la gestion de la crise burundaise et le chevauchement de cette dernière avec la commission Vérité et Réconciliation qui veulent orienter les choses de leur bon vouloir. Aimé Kwizera, chargé de la communication au sein de l'organisation, parle d'une justice burundaise gravement instrumentalisée.
La justice burundaise est gravement instrumentalisée à des faits politico-ethniques et reste incapable de transcender les injonctions de l'exécutif burundais et d'autres manipulateurs. Des auteurs déjà condamnés par la justice dans l'assassinat du président Melchior Ndadaye en 1993, la sévère devient inopportune pour certains dossiers sur lesquels la justice est déjà prononcée. Le procureur général de la République ferme les yeux sur les auteurs des massacres de 1993 qui ont été qualifiés d'actes de génocide par une commission d'enquête de l'ONU. Le même procureur général de la République poursuit une seule personne d'Aroka des massacres des étudiants en tant que président de l'organisation des étudiants ACER alors qu'il ne l'était plus.
SOS Torture alerte également sur une instrumentalisation de l'histoire au service d'une cause politico-ethnique dangereuse pour la réconciliation des Burundais. Une réconciliation qui était auparavant l'objectif primordial de la Commission Vérité et Réconciliation, tel que le stipulaient les accords de paix et de réconciliation d'Arusha.
L'instrumentalisation de l'histoire et de la mémoire au service d'une cause politico-ethnique dangereuse pour la réconciliation des Burundais. Nous observons qu'il y a des victimes dont les leurs sont systématiquement refusées de recueillement et la commémoration, en témoigne la correspondance adressée à l'association AC Génocide Chirimoso par le ministre en charge de l'Intérieur.
SOS Torture recommande la mise en œuvre des engagements contenus dans le prescrit des accords d'Arusha en accordant une place de choix à la paix, à la primauté du droit, à l'unité et le développement comme principale aspiration du peuple burundais.
Inzamba.
La suite de ce journal avec la justice. Plus de 280 000 jugements non exécutés traînent depuis des années devant les différents tribunaux du pays. Pour pallier à ce problème, le ministère de la Justice a débuté ce mercredi dans la province de Gitega une campagne de remettre tous ces jugements en ordre. Selon Maître Vital Chimilimana, ancien président du syndicat des magistrats du Burundi, la corruption qui gangrène le secteur de la justice est l'une des raisons de la non-exécution des jugements rendus. Les détails avec Blaise Nijimbere. Justement, en parlant de corruption dans le milieu carcéral, le fléau s'est carrément institutionnalisé dans les différentes prisons du sud du pays, une situation qui exaspère les détenus et leurs familles. Par exemple, pour comparaître devant les parquets et pour être libérés après acquittement, les détenus doivent impérativement verser des pots de vin. Les détails avec Diane Nkurunziza.
Selon des informations recueillies dans différents prisons et cachots des provinces du sud du pays, la corruption s'est généralisée à tous les niveaux et à tous les secteurs du secteur carcéral. La comparution des détenus devant les parquets est conditionnée par le paiement de pots de vin versé aux procureurs des différents parquets. Selon des sources au sein de la prison de Rumonge et de Rutana qui hébergent les détenus, pour la plupart originaires des provinces Bururi, Rumonge et Makamba, les détenus acquittés se voient refuser de quitter les prisons et cachots. Les mêmes informations précisent que le procureur de Rumonge exige des pots de vin allant de 500 000 à 1 million de francs burundais pour les détenus acquittés par le tribunal de grande instance de Rumonge pour les libérer. Ceux qui sont dans le cachot du parquet de Rumonge ne peuvent pas comparaître qu'après paiement de pots de vin qui sont déterminés après négociation des familles de ces derniers. Au cachot du parquet de Makamba, les détenus disent en outre qu'ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles suite aux effectifs pléthoriques car ils ne comparaissent pas devant les substituts dans les délais fixés par la loi. Selon les professionnels du droit, la situation est identique dans les cachots des commissariats communaux de ces quatre provinces. Ils expliquent que les détenus de ces commissariats sont contraints de payer eux-mêmes les frais de déplacement pour être transférés dans des cachots des commissariats communaux vers les cachots des parquets. Ainsi, un avocat client de quelques-uns de ces prisonniers révèle sous anonymat qu'un détenu est obligé de s'acquitter non seulement de ses frais de déplacement, mais aussi de ceux des policiers qui l'accompagnent. La somme varie selon la distance de la commune et le chef-lieu de la province. Mais ces mêmes professionnels du droit expliquent que les choses semblent sur la voie de changer. Selon eux, depuis la réunion convoquée par le président Évariste Ndayishimiye, les procureurs et les présidents des grandes instances s'efforcent de faire correctement les choses, car ils sont dans la crainte d'être remplacés par le Conseil supérieur de la magistrature. Que ce soit les détenus, que ce soit les familles de ces détenus et les professionnels du droit, ils demandent au chef de l'État de suspendre les responsables des cours et tribunaux qui ne s'acquittent pas convenablement de leurs tâches. Suite à ces grognes des détenus dans les prisons du sud du pays, la rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, a appelé à sans succès Cynthia Irakoze, porte-parole du ministère de la Justice.
Et pour terminer, le maintien de la peine d'emprisonnement contre l'avocat Tony Germain Nina est-il légal? C'est l'analyse de la sous-commission européenne des droits de l'homme qui s'insurge contre la décision de la Cour d'appel de Ngozi. Dans un communiqué de presse publié ce jeudi, la présidente de cette sous-commission demande la libération inconditionnelle et immédiate de l'avocat. Les détails avec Prosper Nzisavira.
La condamnation par la justice burundaise de Tony Germain Nkina démontre que des violations graves des droits humains persistent au Burundi, notamment des pratiques répressives visant leurs défenseurs. C'est ce que déclare dans le communiqué de presse Maria Arena, présidente de la sous-commission européenne des droits de l'homme. Dans cette déclaration, Maria Arena fait savoir que M. Nkina n'a pas bénéficié d'un procès équitable et que sa condamnation est directement liée à son travail et son engagement en faveur des droits humains. Dans le contexte où l'Union européenne et le Burundi ont repris leur dialogue politique après une longue interruption et que l'Union européenne se prépare à lever les sanctions imposées depuis 2016, la présidente de la sous-commission européenne des droits de l'homme invite les autorités burundaises à démontrer leur volonté de respecter les droits humains et à assurer l'indépendance et l'impartialité de la justice. Le communiqué conclut par la demande de la libération inconditionnelle et immédiate de l'avocat, un acte qui serait un signal fort dans cette direction. Le texte rappelle que Tony Germain Nkina a été arrêté le 13 octobre 2020 à Kabarore, dans la province de Kayanza, où il rendait visite à un client. Deux jours plus tard, le tribunal de grande instance de Kayanza l'a déclaré coupable de collaboration avec des groupes armés et l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement. Une peine qui a ensuite été confirmée par la cour d'appel de Ngozi.
C'est la fin de cette édition. Merci à la rédaction de la radio Nzamba Agathe Kakawe pour la production de ce journal. Un grand merci à vous également, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.